nous aujourd'hui autour de la table, Albert Razgoux.
Bonjour.
Doc Villa.
Bonjour.
Alison Wheeler. Bonjour. Tout à l'heure à midi 10, nous retrouverons Tanguy Pastureau et j'ai la chance d'être à côté de Leïla Kaddour-Boudali.
Bonjour Daniel. Salut Daniel Morin. Bonjour à tous, c'est notre invité. Aujourd'hui dans la bande originale, c'est Philippe Delair.
Bravo.
Merci.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonne année.
Je sais pas que vous avez passé de bonnes fêtes aussi.
Formidable. On a mangé, mais comme des cochons.
J'ai trop mangé.
De dingue.
Ah, c'est incroyable.
En tout cas,
Alison a profité pour faire des courses.
T'as gardé ton petit pull.
Ça
fait 10 jours.
Et voilà.
Oui, il faut s'en séparer, Alison, à un moment.
Aussi.
En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous accueillir parmi nous, Philippe Delerme. Vous nous revenez avec, et vous avez eu beau temps, la perfidie ordinaire des petites phrases. Et ce sous-titre-là compte beaucoup aux éditions Seuil. Vous avez traqué d'une certaine façon toutes nos petites manies verbales du quotidien.
Et parfois les miennes aussi. Oui. C'est certaines d'entre elles, ce sont les phrases que je prononce aussi. Mais c'est vrai que bon, moi j'aime bien. En fait, c'est une jubilation en vieillissant un peu, puisque je commence à prendre un peu d'âge, de regarder, d'écouter et puis de faire une espèce de recension de mes contemporains et de moi-même aussi.
Et c'est vraiment jubilatoire à lire parce que vous décrivez avec acuité tous nos petit tic de langage d'une certaine façon qui égrène notre vocabulaire. J'ai envie de vous demander, Philippe Delerme, on peut peut-être se tutoyer ?
Mais écoutez, Léla, je ne sais pas. c'est vrai que c'est.
En même temps, c'est assez. Il faut expliquer que c'est une référence au livre.
C'est une référence au livre et c'est plutôt une phrase un peu générationnelle. Enfin, on ne propose pas. En même temps, il y a beaucoup de gens qui vous proposent un tutoiement d'emblée. Alors, est-ce qu'on est obligé d'accepter ? On peut renvoyer aussi l'envahisseur un petit peu.
Et qui vous embrasse.
Avec quelques vous.
Comment on fait pour dire non à quelqu'un qui demande si on peut se tutoyer ?
Je crois qu'on ne dit pas non, mais on s'arrange pour glisser quelques vous dans la phrase suivante.
Si vous voulez.
Ça serait établi assez vite. Et en tout cas, c'est vrai que je dis à la fin de ce texte qu'il y a une assez jolie phrase qui serait, et qu'on n'entend jamais, qui est « Est-ce qu'on pourrait continuer à se vouvoyer ?» ça m'arrive avec quelques-uns des amis les plus proches que j'ai d'ailleurs, parce que parfois, dans ce « vous », il peut y avoir autant d'affection que sur certains « tu » immédiats. Moi, j'étais prof pendant 37 ans, dans les salles de prof, d'emblée, tout le monde se tutoie. Enfin, bon, voilà.
Ah, les gens de gauche.
Tous les métiers, il y a des camarades.
Vous vouvoyez vos élèves. Parce que moi, quand j'étais prof, je vouvoyais mes élèves, les plus jeunes,
aussi.
Et ils étaient très surpris.
Ouais.
Mais je crois qu'ils aimaient ça. Non, mais moi,
ils aimaient ça.
Je suis désolé, Albert, mais c'était devenu un petit peu déjà désolé à l'époque où j'étais en collège. Donc,
je suis dans l'ancienne école, je suis plus vieux que vous.
C'est ce que je voulais dire.
Pour prendre la défense d'Albert, je le faisais après vous.
Ouais. Ah oui, ouais. Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Ah, c'est
génération, ça, c'était carrément original, Léla, je pense.
Ouais, de dire vous.
Mais je pense que les élèves, moi, je me souviens de quelques profs qui le faisaient, et les élèves adoraient ça, en fait. Ils se sentaient, en fait, assez respectés par le mouvement, comme ça.
Alors, vous expliquez que finalement, ce « tu », quand les gens passent au « tu » dans une relation avec l'autre, c'est souvent parce qu'ils considèrent que c'est un gain d'énergie, un gain de temps, en fait.
Oui, c'était... alors, pas un gain forcément de rapprochement. J'ai eu aussi l'exemple, je fais allusion à ma carrière de prof, mais j'ai d'anciens élèves qui sont devenus des amis très très proches, et certains d'entre eux me tutoient, et je les tutoie facilement. Et d'autres ont préféré garder le vouvoiement, et il y a quelque chose de précieux là-dedans aussi. Il n'y a pas de règle, mais en tout cas, bon, voilà. C'est vrai qu'en tout cas, on n'entend jamais. Est-ce qu'on peut continuer à se vouvoyer ?
Oui. Alors, vous l'avez compris, ce livre, et vous avez eu beau temps. En fait, c'est une succession de petits chapitres. C'est très très court, c'est deux pages, donc on peut aussi le lire.
C'est mon format.
Voilà, oui, c'est vraiment votre format, et ça vous va très très bien. On peut, comme ça, se promener de façon complètement aléatoire dans le livre. Si vous deviez retenir un exemple, une expression qui vous touche particulièrement, on va en évoquer plein d'autres.
Il y en a certaines qui sont tendres. Et effectivement, c'est peut-être vers celle-là que j'irai, alors que le livre, il est quand même plutôt assez corrosif et moqueur dans l'ensemble, d'où le sous-titre La perfidie. Mais bon, moi, j'adore, c'est vrai, cette phrase qui consiste à dire à propos des mots d'enfant, il faudrait les noter, parce que bon, c'est une chose que j'ai dit, j'ai prononcé moi-même 1000 fois, et que les gens autour de moi disent toujours, à propos des mots d'enfant, j'en cite un qui est bon.
C'est la phrase, c'est la phrase de votre fils ?
C'est la phrase de mon petit-fils.
Avec le cauchemar.
C'était une jolie phrase. Je m'en souviens de celle-là, parce qu'il avait dit qu'il y avait un cauchemar dans la chambre, mais je crois qu'il ne m'a pas vu. Donc,
justement, c'est un recueil de plein de notes.
Daniel,
sa fille
lui a dit une chose très jolie l'autre jour sur les cauchemars.
Ah oui, c'était tout mignon.
Ouais, mais t'as vu, c'est pour ça. Non, c'est pas.
Non, je lui dis, bon, allez, tu dors et tu fais attention, tu fais pas de cauchemar. Elle fait, si, je vais faire le cauchemar que t'as fait hier. Je lui dis, mais pourquoi tu vas faire le cauchemar que t'as fait hier? Elle dit, je vais aller voir les monstres et leur dire d'arrêter de t'embêter. Première fois, j'ai senti de l'amour pour
quelqu'un.
Tout arrive.
Je crois que la réaction par rapport à ça, quand on dit il faudrait les noter, on sait très bien qu'on ne le fera pas.
C'est ça.
Et en même temps, on sait très bien qu'on ne doit pas le faire aussi. Ce qui est quelque chose d'un petit peu plus subtil, je pense.
Quelque chose d'égoïste là-dedans.
Non, c'est pas cela, mais je pense que le principe même de la vie fait que les mots d'enfant, c'est plus haut que nous, quoi. Avec le langage, souvent, c'est-à-dire ce sont parfois des maladresses de langage, mais qui, les enfants ont un univers qui est tellement plus grand et plus fort que le nôtre, qu'on sent très bien qu'on touche à quelque chose qui est plus beau que notre monde à nous. Oui. Et en même temps que si on fait on met une épingle comme ça sur ces petits papillons que sont les mots d'enfant, les jolies couleurs micacées qu'il y a sur les ailes du mot qu'il vient de dire vont se perdre, se ternir, et qu'en fait il faut les laisser comme une chose qu'on est en posture d'oublier en fait, et qui sont pas faites pour être fixées. La meilleure preuve en est que quand il y en a des recueils de mots d'enfants, mm-hmm. et on les trouve un peu plats, et puis on trouve toujours que ceux des autres sont moins bons ou moins touchants que ceux qu'on a entendu soi-même en fait.
C'est bien de commencer l'année avec Philippe Delerme, un peu de poésie comme ça, de douceur, Daniel.
Poésie et perfidie. Tom. Je passe à la perfidie, je vous vois, je sais pas pourquoi, j'enchaîne naturellement. Est-ce que vous avez compris pourquoi Philippe Delerme était parmi nous aujourd'hui?
Ça fait 5 minutes qu'on en parle pour son livre, donc vous avez eu beau temps, sous titre du livre, la perfidie ordinaire, des petites phrases. Il y a un moment, si vous reprenez les mêmes poncifs que Nagui, moi j'y peux rien. Voilà. Et vous recensez donc Philippe avec brio toutes les petites choses du quotidien qui viennent nous polluer la vie. Et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Voilà, Philippe Delerme.
C'est pour ça aussi.
Faut pas voir le mal partout. Voilà, effectivement, il y a des petites phrases qui peuvent blesser, mais parfois, ces mêmes petites phrases peuvent faire très plaisir. Exemple, si je dis Alison, t'as pas un peu pris, toi? Bon, c'est pas très sympa. Même si c'est vrai, c'est pas très sympa. Mais si je dis cette même phrase, t'as pas un peu pris, toi, à un anorexique, ça peut lui faire plaisir. Ça veut dire qu'il est en train de se guérir. Voilà, il est sur la voie de la guérison. Pareil, si je viens à un pote, tu sors chez le coiffeur et putain, il t'a pas loupé. Bon, il vient d'acheter 40 balles, il peut mal le prendre. En revanche, si tu dis ça à un pote, mais qu'il sort d'une chimio, ça peut lui faire plaisir. Ça veut dire que ses cheveux repoussent. Alors après, faut faire attention parce que parfois, ça part d'une bonne intention et ça finit comme une saloperie. Imagine, t'es avec une fille, tu dis, putain, depuis que t'es célibataire, t'es rayonnante, vraiment, je te sens libéré d'un poids. Bon, si c'est une bonne copine et qu'elle s'est fait larguer par un connard, elle va bien le prendre. En revanche, si c'est ton ex, bon, ça peut virer à la saloperie. Et pour finir, par exemple, si tu dis ce matin j'ai la patate, je vais tout péter, bon déjà la patate c'est carton jaune, hein, je vous le dis, mais si tu le dis au bureau, c'est cool. En revanche, si tu dis dans le métro avec une grosse barbe et un sac à dos, tu peux finir avec un coup de taser, voire en garde à vue. Et en même temps, je vous rejoins, voilà, monsieur Delerme, j'en peux plus toutes ces petites phrases qui nous pourrissent le quotidien. Moi, ça m'arrive souvent quand je vais, par exemple, je sais pas, acheter des fringues, je demande au vendeur s'il a la veste taille M, et je sais pas, si j'ai une malédiction, mais systématiquement, il me dit, ah, c'est ballot. On a vendu la dernière tout à l'heure. Donc, je sais pas qui est cette personne qui fait la même taille que moi. Et qui, juste pour me faire chier,
systématiquement,
toujours une heure avant moi. Mais lui, je le retrouve, je le percute en Vélib. Voilà. Hein?
Oh.
Non, mais c'est vrai. Eh ouais, on est foufou. Comme dans, votre
web aussi. Foufou, c'est autorisé, ça.
Ouais, ouais.
La patate, non. Foufou. Ok, très bien.
Tu prends des notes.
Non, non.
Non, mais comme. Ah, t'as pas l'iPad de Nagui?
Non, non, non. On me l'a pas donné à moi.
Tiens, appuie-moi dessus.
Ah, parfait. Et dans votre nouvelle, Philippe, vous dites vous êtes allé à la pointe. Ah.
Ouais.
Alors ça, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, t'es parti en vacances, t'as un mec qui veut te mépriser parce que lui, il y a été avant, et il connaît un endroit incroyable, il est à peu près sûr que t'as pas eu le temps d'y aller, et il te demande si t'as été dans un endroit perdu au fin fond de la Pampa pour mater un coucher de soleil. Des mecs comme ça, il y en a plein. Généralement, c'est le même gars qui, quand tu vas acheter un truc un peu cher, genre une télé, te dit systématiquement après... Ben, pourquoi tu m'as pas dit? Tu sais que j'ai des prix, tu vois? C'est que là, voilà, vraiment, c'est le même, tu sais, quand tu reviens de Disney et que t'as payé plein de tarifs, tu te dis, bah, putain, c'est con, ma belle-sœur a payé 5 euros avec son CE. T'as des gens comme ça, t'as l'impression qu'ils ont la même vie que toi, ils s'habillent comme toi, ils partent en vacances aux mêmes endroits que toi, ils vont se faire chier chez Mickey avec leur neveu comme toi, mais en mieux que toi et en moins cher que toi. Et voilà, et ce gars-là, tu sais, c'est le mec bourré, il te dit, bah, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Puis il vient jamais à ton déménagement. Alors après, je cache pas que moi aussi, ça m'arrive de dire des petites phrases de merde. Quand j'arrive chez des gens chez qui je suis invité, j'arrive plus tôt, ils ont pas fini de préparer. Souvent, j'ai la connerie de dire, je peux vous aider à faire quelque chose, alors que ça m'emmerde profondément, hein. Donc, n'y voyez aucun sarcasme de ma part, Philippe, mais bienvenue dans la bande originale. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, hésitez.
Bonne vie, là.
France Inter. La bande originale.
Oui, c'est l'un des exemples. Est-ce que je peux donner un petit coup de main? Est-ce que je peux me rendre utile, en fait, finalement? Cette partie, être l'inviteur l'invité-inviteur.
Ouais, pour le coup, quand on arrive encore un peu plus tôt, ça peut être sympa aussi de faire partie un petit peu l'organisation de l'invitation. Mais voilà, j'avais déjà aussi évoqué des invitations inopinées qui sont sympas, c'est vrai. C'est très juste ce que vous dites. En tout cas, maintenant, je vais hésiter pour tout.
À ce moment-là, on te dit, tiens, rends-toi utile.
Ouais, c'est ça. Rends-toi utile.
Alors, quelle a été votre méthodologie pour constituer ce livre, ce recueil? Comment est-ce qu'on peut le désigner?
En fait, je l'ai écrit sur pas mal de temps, puisque alors pour les gens qui me connaissent un petit peu, donc j'étais un petit peu découvert à travers des recueils de textes courts essentiellement, mm-hmm. dont le premier était La première gorgée de bière, qui comptait 34 textes. Celui-ci en compte le double, donc j'ai écrit un peu plus longtemps, et donc il y a eu un mélange pendant longtemps. Je me suis dit, il y a quand même beaucoup de textes un peu sarcastiques, puis après le naturel reprend le dessus. Il y en a eu plusieurs qui étaient tendres un peu. Finalement, il y a tout en même temps. Il n'y a pas de méthodologie. Il n'y a surtout pas de carnet porté sur moi, pas de notation immédiate du quotidien. Et ça, c'est un truc toujours qui surprend un peu les gens. Mais vous devez être quelqu'un qui est sur le motif, toujours en train de pêcher des sujets comme ça dans la vie. Et en fait, ça marche jamais comme ça. C'est toujours des trucs qu'il faut que simplement je sois un citoyen lambda qui vit les choses. Et c'est beaucoup après que je repense à des phrases où en ce moment j'écris sur des gestes, par exemple, sur des petites choses qui peuvent dire un peu, c'est un peu prétentieux, mais peut-être de dire ça, mais c'est ça mon but, c'est l'éternel humain, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas envie de saisir des tics qui sont vraiment des tics d'aujourd'hui, mais quand il y a des tics d'aujourd'hui, de dire des choses qui, à travers aujourd'hui, disent quelque chose de profond sur l'humanité en général.
Alors justement, pour certains exemples aussi, donnent à réfléchir. Bon, il y a ce côté souriant où on se rend compte parfois de notre hypocrisie latente, notre absence de courage, et puis il y a encore des expressions où on se dit que la langue fait sens et que parfois elle fait pas sens dans le bon sens. Par exemple, il n'a pas fait son deuil. Moi, ça m'a beaucoup touché. Il n'a pas fait son deuil.
Oui, parce que c'est une expression qui est quand même un tout petit peu obscène et qui est largement utilisée par les médias.
Qui vient de la psychanalyse, faut le dire.
Qui vient de la psychanalyse, oui, probablement. chaque fois qu'il y a un crash, oui, d'accord. Et chaque fois qu'il y a une catastrophe quelconque, on parle toujours de ce concept. Ça arrive très tôt dans les bulletins d'information. Ils n'ont pas fait leur deuil. Alors on recherche la boîte noire. on trouve toujours comme une volonté à la fois de donner de l'importance à la chose, mais aussi de l'effacer le plus rapidement possible. Dès qu'on aura retrouvé les corps, ça sera terminé. Et je revendique la liberté.
Et là, on n'est pas du tout dans le sarcasme. Alors,
on n'est pas dans le sarcasme pour le coup. Et on est dans cette idée qui m'est chère, qu'en fait, il y a que la mémoire qui est quelque chose d'un petit peu digne, et qu'on a le droit aussi de ne jamais faire son deuil. Oui. Et qu'après, à propos des gens qu'on aime le mieux, c'est quand même très souhaitable de ne jamais le faire, en fait.
Alors, il y a aussi des thématiques finalement qui se ressentent. Il y a en effet une thématique qui est liée à la disparition d'un être cher. Il aimait le Monopoly, par exemple. Alors, on va pas tout expliquer au micro, mais j'ai trouvé ça très beau aussi, comment on explique la valeur du temps entre l'imparfait, il aimait le Monopoly, ou il aima le Monopoly, qui a quelque chose de beaucoup plus glaçant et qui ne rappelle pas la mémoire de l'individu.
Il aima le Monopoly.
Il aimait le Monopoly.
Ah, il aimait le Monopoly. C'est une chose dont j'aimais parler quand j'étais prof aussi de français. On l'aura deviné, mais comme vous, je crois. C'est vrai qu'il y a un pouvoir étonnant dans l'imparfait. Moi, je suis parfois en colère quand je vois que disparaissent souvent des livres jeunesse qu'on publie aujourd'hui, les temps du passé, parce que on considère les gosses comme des débiles qui peuvent parler que comme un commentaire de match de foot. C'est ce qui est un petit peu méprisant
et
condescendant. Non, mais bon, eux, ils essaient d'être accro au présent absolu. Mais c'est vrai que quand on emploie l'imparfait, on fait toujours revivre quand on monte des diapositive. Dieu merci, on n'en montre plus beaucoup. Mais
c'était bien.
C'était long. C'était avant que tu naisses.
Vous savez, c'était Gay-Luc qui disait Paradis et l'enfer, ça sera en fait la même chose, mais sauf qu'en enfer, les gens auront apporté leur diapositive.
Ça décrit bien.
Et alors, en fait, moi, je trouve effectivement que quand on fait quelque chose comme un Monopoly, un jeu que les adultes partagent souvent avec des enfants, et quand on évoque quelqu'un comme ça, je trouve que quand on dit on peut dire de quelqu'un, il aimait ça, le Monopoly. Ouais. D'abord, ça recrée une vie, parce qu'il y a une espèce de durée comme ça dans l'imparfait. Et puis en même temps, ça veut dire qu'on évoque aussi quelqu'un qui manifestait qu'il pouvait aimer des choses dans la vie, que ça le faisait marrer quand en carte chance, il prenait, vous avez gagné le deuxième point de beauté, ce qui est toujours un truc assez douloureux autour d'une table. Donc, et qu'après tout, ça fait partie des choses qui comptent, malgré tout.
Oui, donc il y a pas mal d'expressions où je me dis moi-même, personnellement, que j'essaierai de plus les utiliser. C'est vrai que pour être tout à fait honnête avec toi, ça c'est quand même... En vous lisant, j'ai mesuré le côté millefeuille d'hypocrisie, oui, parce que c'est ça, c'est complètement dingue. Il y a vraiment des expressions qu'on utilise très régulièrement.
Là, pour le coup, c'est un aveu qui est assez étonnant, parce que déjà, pour être honnête, bon, c'est déjà un peu suspect de devoir le préciser, l'honnêteté, c'est, je crois que c'est une vertu qui paraît extrêmement naturelle à ceux qui la pratiquent, mais que les gens qui la revendiquent en permanence, c'est quand même assez inquiétant.
C'est suspicieux.
Ah oui, les gens, il y a un homme politique célèbre qui commençait presque toutes ses phases par honnêtement.
Malkany ? Non, j'ai pas.
Il a plus le droit.
Ah, il a plus le droit.
Donc il a disparu des écrans pour raisons assez sexuelles. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.
Et il avait
pour tout dire, Desca avait l'habitude de commencer quasiment toutes ses phrases par honnêtement. Et bon, voilà, ce genre de choses qui induisent un petit peu en doute. Mais en même temps, mais surtout pour être tout à fait honnête, tout à fait, et quand même, surtout pour vous dire une vacherie, parce que
c'est souvent très dur ce qui vient après.
Ouais, ce qui vient après est quand même très très dur. Alors déjà, ça prouve qu'on pratique l'honnêteté que de façon très sporadique.
Ouais.
Et en plus, là, pourquoi avoir décidé de la pratiquer tout à fait justement avec vous, et en plus pour vous dire une vacherie dans ce cas,
ouais, c'est comme ne le prends pas mal. C'est toujours d'une violence après.
Ah oui.
Ouais. Le prend pas mal, mais je te trouve extrêmement...
On va donner des idées à Philippe pour le tome 2.
Ouais. Et Albert, je crois, en tant que tatinophile, il y a un des mini-chapitres de Philippe qui vous a interpellé.
Ah, oui, bien sûr, c'est « Oui, mon brave Milou, demain nous arriverons à Port-Saïd ».
Ouais.
Pourquoi vous avez choisi cette phrase ?
C'est une phrase que j'échange souvent.
C'est dans les cigares du pharaon au tout début.
Tout à fait. Et c'est une phrase que j'échange souvent avec mon fils Vincent, parce que pour nous, ça définit assez bien quelque chose qu'on aime chez Tintin. Enfin, c'est d'une part l'aventure, le voyage, mais en fait aussi la façon de partager avec Milou, qui presque toujours a pas envie d'aventure.
Il rêverait de ne pas partir.
Il a envie d'être à Moulinsart et se balader en forêt avec Tintin. Et donc Tintin, lui parle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit après des bulles, évidemment, ça vous touche, Albert, les bandes dessinées, et vous êtes expert, mais c'est vrai que c'est assez curieux, cette espèce de dialogue RG1, parce qu'on voit Milou qui parle, mais il parle un langage que Tintin ne comprend pas, et donc il parle au lecteur la langue chien, en fait, mais Tintin, lui, n'entend pas la langue de Milou dans les bulles, c'est bizarre.
Mais les enfants, ils peuvent, par exemple, suivre les aventures en ne suivant que Milou.
Oui,
les petits gosses, même ceux qui ne savent pas lire, oui, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs degrés de lecture, mais
tout à fait,
pour parler Tintin.
Mais toi, tu as beaucoup redoublé aussi, Albert, ça joue peut-être.
Oui, beaucoup. Non, j'ai pas redoublé. J'étais assez bon élève, très chahuteur, mais bon élève. J'aime pas les mecs qui se targuent d'avoir été des mauvais élèves, ça m'énerve. C'est le déni de l'éducation.
C'est une des phrases que j'ai préférées.
J'ai été viré
écrire.
De partout.
Ouais, ça, c'est mon temps incroyable.
C'est devenu un grand classique.
J'ai été renvoyé de partout. Et ça, je dois dire qu'il y a plusieurs textes où je vise plutôt les hommes que les femmes, en fait, parce que il y a que les hommes qui disent je faisais aux secondes aux 100 mètres, d'abord sinon ils seraient champions du monde si c'était une femme.
Mais
c'est vrai que tous les hommes qui ont un passé un peu sportif, ils ont été 4-6 au tennis, ils ont joué au niveau CFA en foot, ils ont couru le 100 mètres en 11 secondes.
Champion départemental.
Donc voilà.
Ils en remettent une couche après avec la descendance, s'ils n'ont pas réussi eux-mêmes à montrer qu'ils étaient des grands sportifs.
Ah oui, et puis en plus les hommes, non seulement ils sont fiers de ce qu'ils n'ont pas fait en l'occurrence, parce que dans la plupart du temps ils ne l'ont pas fait, mais en plus ils aiment bien même se raccrocher à un truc un peu débile du genre mais j'ai un cousin qui est premier prix du concours général ou un truc
il me doit beaucoup
et j'entends assez peu de femmes avoir des phrases de ce registre là quand même.
Merci,
et en tout cas des hommes, j'en entends beaucoup dire moi j'étais renvoyé de partout parce que à défaut d'avoir été premier prix de concours général, il faut que soit qu'ils soient premier prix de concours général, soit qu'ils étaient renvoyés de partout, ce qu'on sait absolument impossible, surtout quand on a été prof, qu'on a eu vraiment des chieurs dans les classes. Je pensais qu'on pouvait rien en faire parce que
on était obligé de les garder
parce que bon, c'est vrai qu'autrefois on renvoyait les élèves des établissements, mais maintenant les chefs d'établissement qui font ça, ils sont très très mal vus. On les oblige à une espèce simplement de turnover en faisant l'échange avec un élève qui est aussi aussi tout à fait aussi embêtant qui vient d'un autre endroit. Et donc cette phrase comme ça, bon, être j'ai été renvoyé de partout, elle est assez fausse. Et puis surtout, bon, ce que j'ai aimé, c'est terminer le texte en disant que comme vous, le gars qui dit ça, il a déclaré que la mousse au chocolat était une tuerie et que ce compliment avec son prix parce que ça venait d'un rebelle. En fait,
Puisqu'on parle de modestie féminine, Leïla, quand on vous a dit que Philippe Delerme venait en ce début 2018, vous auriez sifflé.
Non, là, j'étais très contente. Merci encore en d'être venu. En toute honnêteté, pour vous, être tout à fait honnête avec vous, ou avec toi, du coup, si je vais à l'encontre du tutoiement. Quand je pense à vous, j'entends ça.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage.
André Dussolier, qui prête sa voix à ce texte magnifique de Proust, un texte qui a changé votre vie du côté de chez Swann.
Ah oui, c'est vrai. Alors là, vous êtes quand même très forte et très experte, hein. Très très érudite en Delerme, parce que c'est vrai que notamment le passage qu'on vient d'entendre, ça a pas mal changé ma vie, parce que Proust m'a complètement inhibé pendant des années, toutes les années où j'étais étudiant d'ailleurs en lettres, je voyais vraiment pas pourquoi écrire alors qu'il y avait ça qui existait. Et puis finalement, ce petit paradoxe qu'il y a, le désir de trouver le sommeil m'éveillait. Je me suis dit, ce genre d'idée comme ça, en fait, on a tous eu un moment, une idée comme ça un peu paradoxale, et en se disant, bah oui, moi je l'ai même moi-même pensé bien des fois. Et c'est pas, en fait, Proust et les gens s'en font une image parfois un petit peu intimidante, alors qu'en fait, c'est fait que de petites choses qui nous parlent vraiment complètement directement. Quand il parle de la lanterne magique, bien sûr, on n'a plus de lanterne magique, mais on a des instruments qui passent des films, des images, et les plis du rideau se confondent avec l'image de la lanterne magique, ben on peut trouver l'équivalent. Et ce sont des petites choses de la vie. Moi, ça m'a toujours cassé les pieds d'en entendre parler comme une espèce de cathédrale très construite.
Oui. C'est un cliché, ça aussi. Oui, c'est un cliché paresseux aussi.
Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est fait que de toutes petites choses, mais vraiment souvent extrêmement minuscules, et qui ont fait que, bah, quand on a apporté un manuscrit la première fois que ça a été le début de la recherche du temps perdu, il a été très très peu compris par les gens qui l'ont lu, parce que c'était tellement étonnant, ce gars qui commence un long roman en parlant de la difficulté à s'endormir pendant 50 pages.
Mais en plus, Proust, il peut être lu par des gens de toutes conditions.
Parce que exactement.
J'ai souvenir de Jean Genet qui racontait dans une interview la première fois qu'il a lu Proust, il était en tôle. C'était la promenade, il tournait en rond, puis il se passait des bouquins, les mecs des polars ou n'importe quoi. Et il y a un mec qui lui passe un bouquin, c'était Allons des jeunes filles en fleurs. Et c'est un des premiers livres que Jean Genet a lu, il a été ébloui et il est devenu écrivain grâce à ça.
Et oui, donc vous, c'est ça, ça change votre vie de lecteur, mais aussi ça vous incite à vous dire. Ben, moi aussi, je peux écrire quelque part, c'est un déclic.
Oui, parce que j'avais le sentiment comme ça, notamment. Alors, l'esprit de paradoxe, c'est un esprit que j'aime bien avoir. Dans Proust, il y a tout le temps cet esprit de paradoxe. Et c'est vrai, ce que vous disiez, c'est qu'il y a des lecteurs de tous niveaux sociaux qui lisent Proust. Il y avait une émission, je me souviens, sur la 5, Les lecteurs de Proust. On n'imaginerait pas une émission sur un
les
autre
lecteurs
écrivain.
De Marc Lévy, oui, effectivement. C'est pas...
Oui, a priori, on imagine que ça donnerait pas forcément une émission passionnante, mais Les lecteurs de Proust, c'était assez étonnant, et effectivement il y avait des gens de toutes conditions sociales, et en même temps dans un autre cas j'ai épinglé un petit peu la phrase alors qui est souvent prononcée, c'est je vais relire Proust, parce que c'est souvent et ça c'est un hommage incroyable, parce que les gens ont honte en fait de pas l'avoir lu, il y a des gens bien sûr qui vous disent bah il faut que je m'y mette, il faudrait que j'ai un peu de temps, mais la plupart du temps c'est quand même sous la forme je vais relire Proust.
Ouais.
Philippe Delerme est avec nous jusqu'à 12h30 dans la bande originale. When you walk, check ou check it, je ne sais pas. Ils ont compris prendre deux noms plus faciles en même temps. A tout de suite.
I saw you yesterday. I was afraid of the shadow.
When you walk, Chege ou Chege, je ne sais pas, peu importe.
Qui chante, Daniel.
Voilà, en tout cas, c'était un groupe très très méritant hein, d'avoir un nom comme ça et d'espérer qu'on les annonce comme il faut. Il est avec nous jusqu'à midi et demi dans la bande originale, Philippe Delerme. Et vous avez eu beau temps, la perfidie ordinaire des petites phrases. Elle aussi, elle est perfide des phrases, elle les fait plutôt longues. C'est la drôle d'humeur d'Alison Wheeler.
Bonjour à tous et à toutes, bonjour 2018, bonjour la vie. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez survécu au noyau Joël, santé mais pas des pieds et bon néné de vos proches.
Mais tu vas où toi pour le réveillon?
Moi j'ai une famille spéciale. Moi je viens tout juste de me remettre d'une carte de vœux électronique de ma grand-mère qui m'a foutu un cafard instantané. C'est une courte vidéo animée avec une fleur qui se fane, je clique dessus et là il y a ces vœux super positifs qui s'affichent. Une nouvelle année commence. La vie est belle, mais courte. Marie-toi de mon vivant. Merci, ta mamie. Je sais pas qui est le con qui lui a appris à utiliser Internet, mais il a ouvert la boîte de Pandore, là. On pourrait pas inventer le fil grand-parental, s'il vous plaît. Pourtant, je croyais avoir tout affronté, tout surmonté. Même les « Tu fais quoi pour le nouvel an ?» J'en sais rien, je vais me biturer devant le décor penché d'Arthur, et toi ? J'avais pas vu arriver celle-là. La pire de toutes, la question posée par Corinne de la Compta. Pardon, mais la Compta, vous avez un problème avec le small talk. Et toi, Alison, c'est quoi tes bonnes résolutions pour 2018 ? Attends, Corinne, tu viens de déclencher le plan Vigicone. Ça alerte maximum. Ferme les yeux, je vais te mettre un petit coup d'agrafeuse, tu vas rien sentir. Mais pourquoi nous harceler avec cette tradition des bonnes résolutions? Vous n'avez pas mieux à faire en janvier? Il n'y a pas d'autres trucs à fêter? Je sais pas, moi, des anniversaires. Qu'est-ce qui est né en janvier? Attends, je regarde. Ceausescu, Jules Kinvé, waouh, la cigogne de mauvaise augure a chier sur le mois de janvier, quoi. Et si vous avez prévu d'accoucher ce mois-ci, reportez, annulez ou retenez, mais faites pas les cons, là. Alors, j'ai lu que cette tradition de bonnes résolutions date de l'Antiquité et des Babyloniens. Une tradition qui a ensuite été piquée par les Romains, les Thomas Sisley de l'Antiquité, qui ont pris l'habitude de faire des prières à leur dieu Janus. À chaque début d'année, Janus, qui donne son nom au mois de janvier, à ne pas confondre avec Jean qui donne son anus à manger. Ça, c'est pour les contre-pétomanes qui sont venus nous écouter aujourd'hui dans l'assistance.
Je suis désolé, public. Je ne savais pas.
Avant, c'était sublime. Les Romains, ils priaient Janus, mon dieu, protège mes terres et ma famille. Aujourd'hui, on est moins tourné vers les autres, c'est sûr. On est plus dieu du nouvel an, protège mon cul des capitons et porte-moi jusqu'au club Med Gym. Non, moi, si je devais vraiment prendre des bonnes résolutions, si on est vraiment obligé, j'aimerais me cultiver à apprendre un mot du dictionnaire par jour, parce que des fois, je trouve que je manque de vocabulaire. Au taf, j'aimerais arrêter de remettre au lendemain ce que je peux faire le jour même. Arrêter de procréer, c'est ça ? Puis penser un peu moins à moi-même, être plus altruiste aussi. Ouais, parce que j'ai pas pensé qu'à moi, j'ai vos résolutions aussi. Janus, dieu du nouvel an, aide mes amis autour de cette table, donne-leur le bonheur qu'ils méritent. Trouve à Leïla un mec. Car à cause du JT, elle n'a pas procrastiné depuis longtemps. Faites qu'Albert remonte la pente et qu'il arrête de dealer du shit à France Inter. Janus, fais en sorte que Daniel arrête de nous demander à Tom et moi de l'appeler monsieur l'animateur qu'on a qui n'est pas là.
C'est
sympa les résolutions, enfin surtout celles des autres. Alors si tout le monde tient ses résolutions, moi je promets d'être plus sympa avec Corinne de la Compta.
Allez, ça nous la bande originale
sur France Inter. Une bonne résolution, Philippe ?
Ouais, des résolutions moi j'ai je commence à être un spectateur comme ça du spectacle du monde. Je trouve que c'est vrai que c'est un privilège. Et donc voilà, je souhaite un petit peu continuer quelques temps et avoir envie de le dire et de l'écrire, c'est tout. Tout comme résolution.
Philippe Delerme, on va revenir en musique sur quelques dates qui ont compté pour vous. On commence assez tôt, en 1950.
Ah, ça a compté.
C'est une chanson.
Ça a compté, ça.
C'est magnifique.
Qui nous ressemble.
C'est une imitation de Nagui.
Bonne imitation, hein. Yves Montand, Les Feuilles Mortes.
1950, c'est votre année de naissance, Philippe.
Oui.
Vous naissez dans le milieu de l'école. Vous
habitiez dans une école. Mais maintenant, c'est drôle parce que le temps passe en vite. Il y a beaucoup de gens qui sont presque surpris quand on leur dit « J'ai passé mon enfance et mon adolescence dans des écoles, dans une école, dans un lieu où il suffisait d'ouvrir la porte qui était au fond de l'appartement pour être dans la salle de classe. » Et c'est vrai que ça a beaucoup conditionné ma vie d'enfant et d'adolescent.
Oui, votre père était directeur finalement des écoles où vous étiez. Vous l'avez suivi nécessairement.
Ma mère était institutrice. Et donc, voilà. Après, quand j'ai ouvert le Grand Monde à 12 ans et que j'ai j'ai vu mon père que j'appelais Monsieur Sorel comme mes autres élèves. Oui. Et puis bon, et moi j'appelais mon père Monsieur Delerme comme mes autres élèves. Enfin, oui. Et bon, et puis en plus, il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans les salles de classe comme ça. Après, quand j'ai appris la guitare pour séduire les filles et leur chanter des chansons, donc et ben ça se faisait comme ça, assis sur un pupitre dans la classe de ma mère qui a fait le cours préparatoire toute sa vie. Enfin, tout ça, c'est des endroits à la fois mélancoliques, mais qui sont habités par le passage des enfants aussi, oui. Qui sont particuliers, qui sont pas mal pour rêver sa vie, pour rêver de plus tard et tout ça, et être un peu seul et bien. Moi, j'ai toujours aimé être un peu comme ça, vaguement, un tout petit peu mélancolique et bien en même temps.
Oui, vous étiez apparemment un enfant mélancolique, un peu rêveur, mais le fait d'être dans la classe de votre père faisait qu'il fallait aussi se montrer un peu plus turbulent, j'imagine, pour pas passer pour le fils et le faillot.
Oui, d'autant plus que très peu de temps après ma naissance, on a interdit les châtiments corporels.
Quel dommage.
C'est le père Albert qui est là.
C'était le bon temps.
L'écho de règle sur les droits, à genoux sur la règle, main sur la tête.
Et simplement des gifles, et en fait, j'étais le seul dans la classe à en recevoir, parce que donc mon père n'avait pas le droit d'en donner aux autres. Mais du coup, moi, j'en remettais un petit peu pour... Voilà, plus que ma nature, peut-être, m'aurait poussé pour être du côté de Franck Lagage, qui a été, je sais pas, les gens qui ont vu La Guerre des Boutons, il y a Lebrac, le beau rebelle blond. Voilà, moi, c'était un peu mon idole, parce qu'il ressemblait à Lebrac, et moi, je ne ressemblais pas assez à Lebrac.
Il y a un texte dans ce recueil, et vous avez eu beau temps, qui m'a beaucoup touchée, surtout après avoir lu votre histoire, c'est « Tu m'as sauvé la vie, tu m'as rendu la vie ».
Oui, c'est vrai que c'est une phrase, bien sûr, très très belle, que ma mère me disait souvent, puisque donc elle avait décidé de m'avoir, entre guillemets, après la perte d'un autre enfant. Mais en même temps, c'est vrai qu'avec le temps qui est passé, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce d'exigence derrière cela. Que voilà, quand on est arrivé pour succéder à la mort, quelque part, c'est à la fois quelque chose de formidable, parce qu'on est aimé, quelle chance de pouvoir être autant aimé, mais en même temps... Quelque part aussi, vaguement, l'idée qu'on ne peut pas faire absolument n'importe quoi de sa vie.
Qu'on est responsable d'une forme de bonheur qu'on doit transmettre à sa mère.
Oui, aussi, voilà, cette idée qu'on est un peu l'idée même du bonheur et que voilà. Après tout, c'est peut-être aussi pour ça que, même si je ne suis pas un professeur de bonheur du tout, quand il passe, j'ai plaisir à le nommer aussi.
Et alors finalement, ça peut rassurer nos auditeurs, vous êtes, on le sait, cet écrivain très talentueux, couronné et... Vous avez redoublé à l'école. Ça, c'est toujours un truc qui intrigue les enfants.
Alors, je commence par l'orgueil de mon père. Et je vais retomber un petit peu dans la critique de la race mâle, puisque en fait, ça se passait à l'école de Louveciennes. Vous voyez un petit peu le milieu socioculturel. Louveciennes, bon, banlieue ouest, très très chicose, on va dire. Carrément bourgeoise. Il y avait les enfants adoptifs de Pierre Lazareff ou de Georges Prêtre dans l'école. Et au CM2, je devais être cinquième. Et mon père m'a fait redoubler alors que j'étais cinquième. Alors, vous voyez, cinquième à Louveciennes, ça devait aller, quoi.
Ouais.
Mais simplement, il voulait que ses enfants soient premiers.
Premier.
Et donc, j'ai redoublé pour être premier. Alors, ça, c'est dur, dur. Et bon, alors, ça, j'ai redoublé, effectivement. Par contre, en troisième, j'ai pas fait exprès. Là, j'étais devenu nul entre temps, notamment.
Et vous n'avez pas été vidé de partout.
J'ai pas été vidé de partout. J'étais pas un vrai rebelle, hein, je crois pas. Mais par contre, j'étais très très nul dans tout ce qui était scientifique assez rapidement.
Ben nul, mais ça vous a pas empêché de faire carrière puisque vous devenez prof, 1975.
Et Juliette avait encore son nez. Aragon n'était pas un
mineur. C'est bien, YouTube.
Nicolas Perrac est mon père.
Et cette année, vous êtes en 75 nommé professeur de lettres en Normandie.
Ouais.
Vous, l'étudiant paresseux, qui est devenu tout d'un coup une sorte de. Boulimique.
Qu'est-ce qui s'est passé pour un cancre, est-ce que c'est un échec de devenir prof?
En tout cas, peut-être que parfois ça peut être utile. Je me souviens d'avoir dû enseigner parfois le latin, comme j'étais pas très très doué en latin. On se rend assez bien compte des difficultés que peuvent avoir les gens quand on en a eu soi-même. En français, j'en avais jamais tellement eu, mais en tout cas, j'avais pas choisi non plus la Normandie. Après, ça m'a parfois un peu énervé quand les gens m'ont dit « Ah mais vous n'auriez pas pu écrire ce que vous avez écrit autrement qu'en Normandie ». Et bon, j'avais du mal à leur dire « Bah si, j'ai la prétention de penser que voilà, si j'étais dans une tour à Nanterre, j'aurais peut-être été écrivain quand même. » Mais bon, cela dit, j'ai eu vraiment plaisir à arriver dans un petit trou de 3000 habitants, dans une Normandie qui n'était pas trop cliché, qui était plus une Normandie de rivière, de forêt que de prés et de vaches, en fait, et où j'ai passé toute ma vie. Voilà, où Martine, donc ma compagne, était nommée prof aussi. Et puis, on avait plein d'activités. Oui, vous parliez tout d'un coup de devenir... De quitter la paresse, c'est vrai. Tout d'un coup, c'était bizarre parce que j'ai eu envie, justement, l'époque Proust et la lecture de Proust était passée. Je me suis levé très tôt le matin pour écrire le matin de 5h à 7h.
C'est fou.
et avoir le sentiment d'avoir un peu fini ma journée quand je partais au collège. Quoi. Ouais. Ça, c'est une espèce de jubilation que j'avais, de dire, voilà. En même temps, j'ai envoyé des manuscrits qui étaient refusés. Pendant 10 ans, ils ont été refusés, donc c'était parfois un peu mélancolique aussi. Mais quand même, j'avais le sentiment d'avoir fait mon devoir, parce que j'avais écrit 2 heures avant de commencer ma vie. Voilà. Et ma vie, par ailleurs, d'enseignant, je la concevais pas autrement qu'en étant animateur du club théâtre et du club foot, à midi.
Ça,
deux jours par semaine, club théâtre, toutes les filles, et 2 jours par semaine, club foot, tous les garçons.
C'est voilà. Bien.
Comme ça. Et alors, vous avez évoqué Martine, votre compagne, qui est illustre de littérature jeunesse. On vous avait reçu tous les deux à ce sujet dans cette émission. Ouais, on était ravis aussi de la rencontrer parce qu'on parle beaucoup de Vincent, on parle beaucoup de Philippe et c'était important de voir aussi Martine. Ouais. Martine, vous l'avez rencontrée à la fac à Nanterre et je crois que vous avez trouvé... Comment vous avez séduit Martine ?
Ce qui était rigolo, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des nous avons une vie secrète avec Léla.
Martine qui va être contente.
Elle a fait aussi une radio avec Albert, je me souviens. Mais c'est vrai qu'elle est assez au courant. Je crois qu'elle a assez confiance dans Léla, ce qui est vrai.
Bon, première
erreur.
Merci Martine.
Et puis quand on s'est vu avec Léla, elle avait son copain aussi. Donc voilà, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc,
très bien. J'ai d'autres questions à vous poser. Si vous avez les photos.
Bon, je vais pas vous raconter la vie de toute la famille.
Non, c'est bien.
Mais il se trouve que les chansons que j'apprenais dans la classe de ma mère, elles plaisaient pas du tout aux filles que je rencontrais à l'époque. C'était Sylvestre, Brel, Félix Leclerc et compagnie. Puis les filles que je rencontrais et qui s'intéressaient un peu à moi, elles n'aimaient pas du tout ces chansons-là. Mais quelques années plus tard, la première fille que je rencontre à la fac de Nanterre, la première fille à qui j'ai adressé la parole à la fac de Nanterre, c'est effectivement Martine, avec qui je partage ma vie quand même depuis 48 ans depuis. Et ma première phrase, ça a été « Est-ce que c'est bien ici le TP12 ?» Et donc... c'est difficile de résister, quoi. C'est un truc.
C'est une bonne amorce.
On s'ennuie à faire des poèmes, à écrire des poèmes, alors que finalement. La poésie de l'ordinaire, quoi.
Bah, oui, tout à fait.
Ça suffit. Vous avez galéré pour être publié, et en 1983, la délivrance.
On avance.
Alain Souchon, On avance. Premier livre.
La cinquième saison, ouais. Ah,
oui. Oui, c'est vrai que du coup, les choses qu'on a attendues longtemps, on les savoure aussi un peu différemment. J'avais l'impression que je ne serais jamais publié. Puis j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur, Jean-Paul Bertrand, aujourd'hui décédé, mais à qui j'ai rendu hommage souvent parce qu'il m'a tenu un langage...
Grand éditeur, oui. beaucoup de flair.
Beaucoup de flair, voilà. Il a été le premier éditeur de beaucoup de gens, de Houellebecq, de gens comme
ça.
Et en fait, il m'a tenu un langage quand même assez étonnant. Il m'a dit, vous n'avez pas choisi la voie la plus facile, parce qu'a priori, j'aimais pas trop le roman, mais on est sûr que vous êtes un écrivain et ça sera un jour. Et il a quand même publié 13 bouquins avant que ça se sache. Donc voilà.
Oui, donc cinquième saison, c'était un roman, mais quand même avec cette dimension lyrique, poétique, parce que finalement, le roman, c'est pas votre forme privilégiée.
Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'écrivais donc avant de partir au collège, et donc je privilégiais beaucoup la musicalité des phrases. Et des gens m'ont dit après, ce premier roman, c'est plus un poème en prose, en fait. Et est-ce que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait, en fait, dans ces phrases en prose que des octosyllabes, des décasyllabes et des alexandrins. Mais en même temps, j'écrivais un peu différemment de la façon dont j'écris aujourd'hui. Et c'est une des choses d'ailleurs que, justement, je sacrifie un peu la musicalité.
C'était mieux quand même.
Mais oui, alors moi, ça m'embête pas du tout quand on me dit j'aimais mieux des choses que vous avez fait avant, parce que voilà, il n'y a pas de raison. Je sais pas forcément, vous savez, c'était des proches qui disaient Sylvie Vartan, moi, j'irai la voir quand elle aura fini ses progrès, parce qu'elle fait des progrès tout le temps.
Gagner du temps.
Je suis pas sûr que ce soit des progrès, mais en tout cas, c'est une autre façon d'avoir un rapport avec la langue. Je suis plus près de la précision de la sensation aujourd'hui. Mais le fait, comme ça, de sentir que ça continue à bouger, ça, c'est une chose qui me fait partie du plaisir de continuer à écrire, quand même.
Alors, justement, on va s'intéresser à la langue. Donc, et vous avez eu beau temps aux éditions Seuil, Philippe Delerme, La perfidie ordinaire des petites phrases. Et avec nous, aujourd'hui, Mathieu Avandi. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Mathieu.
Vous êtes docteur en lettres. Ça va durer longtemps. Docteur en lettres et en sciences du langage, spécialiste des Français régionaux. Et vous avez publié Atlas place du français de nos régions chez Armand Collin. Et justement, dans le recueil de Philippe Delerme, ça va être un cadeau pour Philippe, dans le recueil de Philippe Delerme, on fait aussi référence au régionalisme, ou en tout cas aux expressions qu'on peut entendre un peu ici et là, notamment en Normandie, avec cet Ivotan, par exemple.
Moi, c'est une phrase que j'aime bien, ça. Les Normands disent ça parfois, cet Ivotan. Je trouve ça assez sympa, cette façon de dire que, bon, on peut laisser supposer que votre humeur ne dépend pas forcément du fait qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, mais que c'est quelque chose de plus intérieur. Est-ce que c'est un temps qui vous convient, quoi? Je trouve ça plutôt chouette comme attitude.
Mmh. Alors justement, Mathieu Avanzi, finalement, entendre parler quelqu'un, c'est déjà déterminer d'où il vient. Vous êtes très attention, il va scruter tout vos intonations, il va pouvoir déterminer d'où vous venez.
Si on ne cache pas son accent comme vous le faites, effectivement...
Mais je ne cache pas mon accent. Mais c'est ça, je ne cache pas mon accent.
Déjà, bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous m'aviez dit que vous étiez de Toulouse, non?
Non, je suis pas de Toulouse. Non, je suis du sud-ouest.
Il y a une version différente pour chaque personne.
Oui, ça dépend.
Elle brode, je peux vous le dire. Ah, oui.
Donc finalement, on peut déterminer finalement d'où on vient en fonction des termes au moins qu'on utilise.
Ah oui, tout à fait. Si vous utilisez certains mots, on va tout de suite vous cataloguer comme venant de telle ou telle région. Donc, par exemple, de la Normandie avec le titre du petit chapitre qu'il y avait là.
Ouais. Alors, par exemple, on évoque souvent chocolatine ou pain au chocolat, qui est quand même une forme de distinction. Entre le nord et le sud. Je crois que c'est plutôt ça. Mathieu Avanzi, vous venez de quelle région?
Moi, je suis savoyard à l'origine.
Alors, on dit
vous connaissez la Panos alors?
Je connais la Panos.
C'est
un caillon, c'est un cochon ou pardon?
Ça roye.
C'est plutôt en Suisse romande.
Tu te sens bien que ça se dalle, là.
J'étais prof en Haute-Savoie, alors je parle de savoyard couramment.
Alors, chocolatine, pain au chocolat, voilà, ça va distinguer la France. Alors, on a un autre exemple qui est pas mal, parce que, pour le coup, il n'y a pas que deux appellations, c'est le sac.
Une poche.
Alors voilà, justement, on tourne de la porte, il y a la poche, mais aussi le pochon. À Poitiers, on dit le pochon.
Le pochon, c'est cornet, pour le shit, Leïla. Ouais.
Le cornet.
Bah, oui, mais ça, c'est. Non, enfin, bref.
Non, mais ça veut dire.
Il y a Hervé Pochon à. c'est pour le shit, c'est ça.
Ouais. Dans le pochon, tout est bon, d'ailleurs.
Ça, là, pour le coup, c'est peut-être un terme qui est le plus usuel et qui nous permet de déterminer un petit peu les régions de France.
Voilà, avec l'exemple du sac, vous avez également l'exemple des crayons de bois ou des crayons de papier. Donc ça, c'est vraiment des bons indicateurs de l'origine. Donc si vous utilisez certains mots qui sont utilisés que dans certaines régions, si vous utilisez crayon à papier, on sait que vous venez du centre notamment, mais crayon de bois ou crayon gris, vous allez être directement taxé périphérie.
D'accord. Et est-ce que ça veut dire que c'est issu de dialectes, ces mots-là? Comment est-ce qu'on peut les catégoriser?
Ah, il y en a certains, effectivement, qui viennent des patois ou des dialectes. Et il y en a d'autres, c'est simplement des mots pas de l'ancien français, mais du français qu'on parlait il y a un siècle. Donc, je pense, par exemple, à dîner, à midi, je pense que vous déjeunez, mais il y a encore beaucoup de gens qui dînent. Et le soir,
qui soupent. Qui soupent. Ouais, absolument. Il y a combien de dialectes, à peu près, en France, pour se donner un peu une idée?
Ah, ça dépend toujours. Certains vont vous dire qu'il y a un dialecte par village et d'autres vont vous dire qu'on peut distinguer facilement une vingtaine de familles, quoi.
Et comment se portent ces dialectes? Parce que finalement, on peut s'inquiéter. Il y a des régions qui militent activement pour conserver leur langue, leur culture.
Il ne faut pas confondre le dialecte et la langue. Hein.
Oui, les dialectes, pour eux, pour des gens, souvent, c'est revendiqué comme leur langue. Hein. C'est ça, c'est quand même.
Effectivement, il y a tout un débat autour de ça. Ça dépend vraiment des régions. Hein. En Alsace et en Bretagne, ça se maintient assez bien. Dans l'Occitanie,
en Corse,
ça se maintient très très bien. Ouais. En Wallonie. Un peu mieux. En Picardie, c'est déjà bien en danger. Et puis, dans certaines régions, notamment en Savoie, c'est presque éteint.
Oui, d'accord. Vous, Philippe Delerme, est-ce que votre langue de tous les jours est truffée de références?
Non, en fait, les références, pour moi, ça c'est plutôt le sud-ouest, puisque mes quatre grands-parents étaient paysans dans le Tarn-et-Garonne, et qu'en fait, mes parents étaient très fiers, alors qu'ils étaient enseignants en région parisienne, mais de parler le patois occitan quand ils revenaient au pays. Il y a même une phrase de mon recueil, là, qui était une phrase que ma grand-mère disait, en fait, en occitan, à propos des enfants, ceux qui n'en ont pas en veulent, ce qui est une phrase très juste, d'ailleurs, je trouve. Et souvent, ça donnait un charme supplémentaire. Mes parents disaient souvent « Ah, mais c'est plus joli en patois occitan, ça a plus de sens, enfin, ça a plus de saveur. » Je crois que c'est parfois vrai, d'ailleurs.
Il y a une référence, d'ailleurs, dans le livre qui fait aussi part de ce régionalisme. C'est le nombre de bises.
Ah oui.
Ah oui. Oui,
chez nous, c'est trois.
Alors, il y a le « chez nous », déjà, on va expliquer ce que c'est. Mais Mathieu, c'est là aussi, on peut le trouver comme une forme de culture régionale. En tout cas, c'est érigé comme tel.
C'est ce qui m'a interpellé, enfin, quand j'ai feuilleté l'ouvrage, pourquoi trois? Je me suis demandé, enfin, parce que c'est pas un usage normand ou un usage parisien, c'est plutôt un usage, anciennement protestant, quoi.
Ouais. Ah bon?
Ça coupe plus ou moins l'air. Hein,
ouais. Moi, j'ai déjà vu des livres qui essayaient de le rattacher à une région, mais je crois pas. C'est pas ça. Mais simplement, je trouve que quand on dit chez nous c'est trois, en plus on reste un petit peu en porte-à-faux puisqu'on est en déséquilibre. Déjà, c'est pas une situation qui est très sensuelle ni très naturelle, parce que quelqu'un qui vous dit voilà comment il faut se faire la bise.
c'est déjà. Eh bien, on serre la main. Et puis oui.
Alors, quels sont les exemples, Mathieu Avanzi, des termes les plus, les réalités qui sont désignées par des termes très très différents selon les régions. On a évoqué le pain au chocolat et la chocolatine, le sac, le pochon, le cornet. Quels seraient
Dans le vocabulaire domestique, on peut penser à la serpillière. Donc on a eu des exemples tout à l'heure avec panos
ou la
voisinge. Je pense que vous dites la cinse en Normandie.
Moi je ne la connais pas.
On dit l'aspirateur.
Pas, c'est normal. C'est pas assez souvent la serpillière, j'ai l'impression.
La cinse.
Vous avez la même chose avec le chiffon. Donc certains vont appeler ça une pâte, d'autres vont appeler ça une paye, d'autres une pétasse. On peut prononcer ou pas le S.
À la pétasse, oui.
D'accord. Et après, il y a tout un tas de verbes que, pour le coup, si on n'est pas au courant, c'est compliqué de déterminer le sens pour bouiner.
Bouiner, effectivement, ça veut dire glander en langage un peu plus argotique, ou s'entrucher, donc c'est avaler de travers en buvant ou en mangeant.
Et en Haute-Savoie, s'encoubler, ça veut dire trébucher.
Exactement, se prendre les pieds dans un obstacle.
Alors, en Normandie, on dit prendre de l'envahi aussi, pour prendre de l'élan.
Ou rouméquer, par exemple, j'ai découvert ça, rouméquer.
C'est bougonner ou ronchonner, qui s'utilise dans le sud.
Ça veut dire que finalement, c'est aussi, ces patois-là, ils sont aussi garants d'une certaine vitalité encore de la langue. Pour des écrivains comme Philippe Delerme, c'est une matière assez exceptionnelle.
Ah oui, du pittoresque, de la beauté aussi.
Mmh. Oui, il désigne des réalités. Comme tout à l'heure, on parlait de l'occitan qui était plus joli pour désigner certains états de fait. Effectivement, les mots régionaux désignent des réalités. Souvent que le français standard ne permet pas de désigner, et puis c'est pour ça que ces mots continuent et puis font plaisir aux gens.
Alors comment vous avez fait, vous, pour cartographier finalement ces mots dans les régions où vous avez fait une petite enquête? À partir de quand vous pouvez estimer que ce terme est employé vraiment précisément là, ou qu'il est un peu plus diffus?
On s'est servi surtout des réseaux sociaux et des smartphones, des téléphones, et on a spammé pas mal de gens en leur demandant de répondre à des questions de façon assez continuelle. Et une fois qu'on a eu 10 000 participants sur une enquête, donc un certain nombre de questions, on changeait les questions, puis on a fait une sélection, disons, des questions les plus jolies et puis qui donnaient les meilleures cartes. Donc tout donnait pas des cartes, par exemple, texto ou SMS. Je pensais qu'il y avait une variation sur, ou même sur la liaison, un SMS ou un SMS, et finalement c'est pas sorti. Il y a une variation qui est plutôt libre.
Et alors, il y a aussi une nuance, c'est dans la prononciation. Il n'y a pas que les termes qui changent selon les régions, il y a la prononciation.
Ça, c'est le plus dur à cacher. Et ça, c'est le plus.
Surtout quand on vient de Toulouse.
C'est ça, le rose.
Effectivement, donc est-ce que vous dites pneu ou pneu?
Moi, je dis un pneu.
Un pneu, ouais.
Ou est-ce que vous faites. Un petit tour de table pour savoir comment on dit pneu, parce que ça a l'air impressionnant.
Philippe, vous dites quoi en Normandie?
Je crois que pneu, c'était notamment les Parisiens disaient pas mal pneu ou caillet aussi.
Caillet.
Ouais. Du gruère, ils disaient aussi. Oh. Et un crayon.
Un yaourt.
Ah oui.
Ils avaient plus de dents. C'est une déformation, c'est de la physique après.
Il peut y avoir yogourt aussi.
En tout cas, merci beaucoup, Mathieu Avanzi. Donc, je rappelle, Atlas du français de nos régions chez Armand Collin, avec tout un tas d'expressions qui sont assez joyeuses à découvrir, avec le sens aussi. Je vais vous l'offrir, Philippe Delerme.
Ah, voilà. Ça m'intéresse.
C'est gratuit. Dans la deuxième heure, nous recevrons Tanguy Pastureau, mais
bonjour.
Il est déjà là.
Ah, il est là. Oui.
Tanguy, vous allez nous dire que les robots sont partout.
Oui, ainsi parmi nous ce midi, il y a 10% de robots. Alors pour les distinguer, ce sont ceux qui ont l'air frais. Il y a des robots sexuels, des robots d'aide aux seniors, voire des robots qui font les deux en même temps, par exemple pour un mandalire. Et ce n'est que le début, Daniel.
Ah ben, on a hâte de voir ça. Alors je ne sais pas qui est le robot ici. Alison a l'air fraîche pourtant. C'est incompatible.
Allez, on passe à la cascade.
De bonnes résolutions.
De questions, des questions courtes, des réponses courtes pour Philippe Delerme. Tom.
Philippe Delerme, qu'avez-vous relu dernièrement?
J'ai relu Au revoir et merci des gens d'Ormesson.
Ah.
Qui est un livre que je trouve magnifique, étonnant, et qui correspond pas forcément à l'image qu'on a toujours de Jean d'Ormesson, qui est un livre très très mélancolique et gai en même temps, et puis élégant par rapport à l'idée du goût de la vie, et que je conseille à tout le monde.
Albert.
Votre juron préféré, normand ou plus général?
Tous, je crois que... Mais bon, j'ai peur que ça soit bêtement, platement vulgaire. Je dis beaucoup, enfin, putain... je n'ai pas de juron...
C'est la base, c'est la base.
Je n'ai pas de juron fleuri spécial.
Alison,
c'est vrai qu'on vous confond avec Haneke?
Oui, c'est vrai. Alors, cela dit, j'ai une petite prétention qui s'installe parce que j'ai vu des photos récentes d'Haneke. Je trouve quand même qu'en fait, objectivement, il a presque 10 ans de plus que moi. Donc,
et ça se voit.
merci, Daniel. Mais c'est vrai que, par ailleurs, dans un premier temps, c'était plutôt flatteur. Et simplement, la seule chose dont je voudrais être sûr, c'est qu'au moins une fois dans sa vie, on l'a pris pour Philippe Dallaire, mais j'en suis pas très sûr.
À toi, Daniel.
À une question qui me taraude et qui taraude tout le monde, j'imagine, Philippe. Le secret de longévité du couple.
D'habitude,
c'est le geste que
c'est marrant parce que alors.
Ça travaille, Daniel.
Je me souviens d'une émission où Régis Geoffrey, l'écrivain qui était chroniqueur de l'émission, m'avait dit avant l'émission, mais j'ai plein de choses à dire sur ton livre. En fait, il a passé uniquement le temps qu'il m'a consacré à dire, mais c'est stupéfiant de rester toute sa vie avec la même femme. Mais on sentait qu'il trouvait ça en fait consternant.
Vous n'avez pas répondu.
Et voilà.
Philippe, on veut la recette.
Je crois que c'est en ce qui me concerne, et en ce qui concerne Martine, c'est ce que dit Hemingway dans un de ses romans. Quand on a vu l'enfance dans l'autre, on est pris pour toujours, en fait.
Merci, Philippe.
Et vous... c'est beau.
On a pris des notes, on espère que ça va fonctionner. Et vous avez eu beau temps, Philippe Delerme, aux éditions du Seuil. Il y a aussi tout un tas d'expressions qui renvoient un peu à la culture et à la connaissance littéraire. On va les évoquer après-midi. Mais surtout, il y a forcément un texte qui nous concerne tous. Cette justification qu'on a de dire je le lis chez ma coiffeuse. Tout le monde s'est reconnu autour de la table. Oui, c'est revu qu'on déteste, qu'on adore détester.
Puis je sais pas pourquoi il y a déjà y a, bon alors est-ce que pour autant je pense pas, je vais pas citer le nom des revues en question, mais c'est vrai qu'elles m'amusent déjà dans leur principe, parce que pourquoi à ce point-là ne pas les revendiquer. Je vais revenir à nouveau sur le côté mâle que je quand même, ouais. Pour le coup j'y vais assez fort parce que je fais allusion à certains hebdomadaires du mercredi satirique, donc voilà, et que les hommes adorent déployer dans le métro, le bus. Je vois rarement des femmes déployer le canard enchaîné de la même manière. Et ça, je m'en amuse un petit peu parce que voilà, c'est pareil, ça donne un brevet comme ça de rébellion et d'authenticité à des gens pour lesquels on n'aurait pas dit a priori qu'ils étaient franchement des rebelles de gauche, mais qui en arborant le canard ont l'air comme ça de le cautionner.
En plus, c'est grand ouvrir le canard.
En vacances, il y a un truc quand même, les filles sont faire de clichés où allez, claque, on les prend tous un par un pour l'avion, pour le train.
Oui, non, voilà.
Il y a une razzia au moment où il y a un lâcher-prise.
Puis ce qui est rigolo, c'est que dans ceux auxquels je pense, enfin c'est plutôt Paris Match, par exemple.
Paris Match, Voici Closer,
voilà,
tout ça.
Voici Closer, c'est déjà un peu moins, mais je pense. Mais c'est cette idée que tous ces gens qui veulent quand même être très célèbres veulent surtout être absolument normaux. Quoi. Ils font absolument tout comme nous, ils font la cuisine, ils accompagnent leurs gosses à l'école. Absolument.
C'est propre chez eux, c'est incroyable. C'est, ils ont tous un labrador en plus.
Et certains, pour être modernes, quand même sont pieds nus sur leur moquette. Voilà,
ça, c'est Claire Chazal
Donc, mais elle est pas seule d'ailleurs dans ce cas. C'est un brevet de modernité.
De
coulitude,
ouais.
Voilà, on est normal, mais on est pieds nus dans son intimité. Ça fait c'est ce qu'il faut.
Ouais. On fait dodo tranquillement sur les genoux de sa femme. Référence au gala où Nagui et son épouse étaient installés tranquillement dans la maison de leur gardien, puisqu'on a vu que c'était juste un 180 mètres carrés dans lequel ils étaient en train de poser Philippe Delerme et notre invité jusqu'à 12h30. En deuxième heure, on retrouve Tanguy Pastureau et le rêve de Jean-Jacques Lang, les amis. Pour l'instant, France Inter, il est midi, les infos. Retour de la bande originale, nous sommes toujours avec Albert Algou, Alison Wheeler, Tom Villa, Tanguy Pastureau d'ici quelques minutes. Bonjour. Et j'ai la chance d'être à côté de la très douce Leïla Kaddour Boudadi.
Bonjour Daniel Morin, comment ça va? Et notre invité est toujours Philippe Delerme, dans la bande originale. Philippe Delerme, Lerme qui nous revient avec plaisir pour « Et vous avez eu beau temps la perfidie ordinaire des petites phrases », c'est aux éditions Seuil, où Philippe Delerme décrypte quelques expressions comme ça qui nous ont envahis sans vraiment maîtriser au fond le sens et surtout notre hypocrisie latente. C'est surtout ça, moi, qui m'a vraiment fait rire.
En fait, vous êtes un peu un sadique, parce que ouais, c'est des expressions qu'on emploie tout chacun comme ça sans y penser. Et d'un seul coup, vous dites « Non, non, ça veut dire autre chose, il faut aller un peu plus loin. »
On va faire gaffe.
Non, on va faire très attention.
Oui, oui, mais je crois que c'est vrai, c'est les plus petites choses qui sont les plus révélatrices des gens, en fait, souvent. Et notamment le langage.
On a souvent quand même conscience, par exemple, nous allons vous laisser.
Ah oui.
Là, vraiment, personne autour de cette table ne peut dire qu'il n'a pas conscience en disant ça à un vieux monsieur et une vieille dame après une demi-heure de visite. Nous allons vous laisser, sous-entendu, Philippe Delerme, vous avez besoin de vous reposer.
Oui, nous allons vous lasser.
Oui, nous allons vous lasser. Et surtout, on va se lasser.
Surtout, on va se lasser tout seul. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est vrai, je la prononce aussi. Et c'est assez drôle parce qu'il y a toujours un scénario qui est un petit peu le même. On est très, très content comme ça. En fait, quand on fait ce type de visite, ça peut être quelqu'un avec qui on a eu un vécu, mais quelqu'un qui est coupé de la vie tout d'un coup, qui est ailleurs, et on reste là, on fait un petit peu sa BA, et en même temps on sait très très bien qu'il y a un tout petit peu d'hypocrisie. On sait très bien que c'est important pour la personne, la visite, que ça crée un amont et un aval dans sa journée, en fait, quand on vient la voir. Et donc après, si elle vous dit je sais bien que vous avez mille choses à faire, allez-y, bon, les rôles sont presque distribués d'avance, ouais. Il y a presque aussi un petit quelque chose qui est assez, assez joli dans la personne qui reste souvent emmurée comme ça, c'est de dire par contre tu seras gentil de me passer mon tricot ou un truc comme ça, et alors là, du coup il y a une grande respiration parce que
on n'est pas venu pour rien
et puis je peux me débiner d'autant plus vite que je rends service juste avant, quoi, aussi. C'est vrai que pour le coup c'est un petit peu c'est une perversité que je pense on a un peu tous quand même.
Il y a un truc qui est horrible, c'est on va pas vous embêter plus longtemps. Ouais. Alors pourquoi t'es venu
J'avais un collègue qui avait connu un certain succès, je sais pas si c'est très pratiqué, mais qui disait c'est pas qu'il soit tard, mais je m'emmerde.
C'était qui?
Moi, c'était un prof de musique dans mon collège, donc voilà. À la fin des conseils de classe, c'est pas qu'il soit tard, mais je m'emmerde.
Ouais, c'est dur.
Ah, ça, c'est du manouquin, en tout cas.
Moi, c'est direct. Mais c'est vrai qu'on se reconnaît tous, il n'y a pas une expression, on peut pas dire après la lecture de ce livre que on est complètement exempt de ces petites perfidies ordinaires. Moi, j'ai beaucoup aimé le tacle, et c'est un tacle en règle du footballeur, du langage du sportif, en particulier du footballeur, qui n'a de cesse de répéter que lors d'une victoire,
c'est grâce au collectif.
C'est le collectif.
Ah oui, ça, c'est vraiment
insupportable. C'est juste insupportable.
Si ça se trouve, c'est vrai, ils pensent le truc.
Les acteurs font ça aussi, c'est le travail de toute une équipe.
Oui, c'est toute une équipe, c'est vrai, ça, c'est tout à fait vrai. Alors, les footballeurs, c'est particulièrement criant parce que on a jamais un footballeur qui dit ouais, c'est super, j'ai rêvé toute ma vie d'être footballeur, c'est quand même le cas. Je gagne 800 000 euros par mois, bon, bah, c'est quand même pas mal. En plus, j'ai marqué 2 buts. Ouais. Maintenant, c'est un truc un peu tristounet, mais non, c'est toute l'équipe qui est. Bon, et en plus, toute l'équipe, il a le match suivant, quand l'entraîneur le vire à la 50e minute parce qu'il n'a pas été assez bon, le collectif, dans ces cas-là, il le justifie en donnant un grand coup de pied dans une bouteille d'eau et en rentrant au vestiaire sans s'occuper du résultat.
Mais oui, mais ça,
c'est pour évacuer la pression,
le coup de pied dans la bouteille. C'est tellement juste.
Mais bon, c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que j'ai eu envie de souligner un peu la perfidie, parce que c'est souvent ça que je suis allé dénicher un petit peu aussi. Ça peut être la mienne, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est vrai que après tout, les modèles un petit peu du passé, la Bruyère, la Fontaine, c'est un peu ça qui faisait quand la Fontaine, il parle de la jeune veuve et qui dit à son mari, attends-moi, je te suis, et mon âme aussi vraie que la tienne est prête à s'envoler. Et puis le vers qui suit, c'est le mari fait seul le voyage. Bon, c'est très court, mais c'est excellent, quoi. Et je crois qu'on est un peu comme ça quand même.
On parlait d'esprit d'équipe. Lui, je peux vous dire que l'esprit d'équipe, il s'en fout, il maltraite la faute. C'est Tanguy Pasturo.
C'est pas vrai.
Tanguy, nous sommes cernés par les robots, paraît-il.
Oui, d'ici peu, Philippe Delerme, ici présent, sera entouré de robots qui nous auront remplacés, car ils seront capables de lire l'ensemble de ses bouquins en 24 secondes et de lui poser 800 questions pertinentes par demi-heure. À la place des humoristes du matin, on aura installé Comic XT24, un robot capable lui seul de faire la synthèse entre Charline, Sophia Aram et Bec Bédé, c'est-à-dire qu'il parlera de politique, de religion et de drogue dans la même chronique. On se rendra compte trop tard qu'un humain faisait ça autrefois, vous, Daniel Morin, qui aurait laissé votre place à mort 2, un Morin amélioré, capable d'être drôle pendant 200 heures de suite. L'avantage étant que lui, on peut le débrancher. Ça, c'est pour bientôt, parce que les robots sont là, et même dans notre sphère la plus intime. Oui, là, en dessous, plus bas, voilà, c'est là, oui. Exemple, le catalan Sergi Santos a créé le robot sexuel. Alors, ça marche comme un conjoint, vous le sortez au Buffalo Grill, sauf que lui, il boit l'huile des frites plutôt qu'un kir. Vous rentrez, lui faites l'amour, le robot sexuel vous dit alors soit, mon Dieu, quelle extase, je suis au bord de l'erreur 404, soit, vas-y ma puce, tu vas la perforer ma carte. Mais jamais il dit, c'est tout, comme nos époux et épouses à nous, donc il est mieux. Alors le robot sexuel, tout ça est véridique, a un cerveau, c'est-à-dire que dans la chaîne intellectuelle, il est déjà au-dessus de Zaya pour des prestations équivalentes, et bientôt il sera possible de lui faire un bébé, mélange de vous et du robot qui est tout rigide. Le gosse ressemblera donc à Manuel Valls s'il sortait d'un soin de cryothérapie. Un bébé qui naîtra via une imprimante 3D. Alors, autre robot venant de sortir, le THR3 de Toyota, qui imite les mouvements de la personne en face de lui. Hein, on l'a testé avec Doc Gynéco, le robot s'est mis en veille. Il reproduit même le déhanché humain. Vous lui mettez du Shakira, il se met à remuer du boule en criant « Aïe, 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 caliente, si, si, MST oh ». Et il a des capteurs qui lui permettent de saisir des choses délicatement, avec élégance. THR3, c'est Nadine de Rothschild, mais avec un meilleur look. Alors, il sera utilisé pour les soins aux personnes âgées. En gros, il va servir de la semoule et zapper sur la 3 toute la journée. Et Toyota a aussi lancé Kirobo Mini, un robot de 10 cm, incapable de converser en voiture. Il vous dit, mais c'est pas vrai d'être aussi con, c'était à gauche, pauvre bus. Et toutes les heures, il vous demande de vous arrêter pour faire pipi.
Il y a aussi des robots français, Tanguy, comme Nina, un robot au regard humain.
Oui, c'est un directeur de recherche au CNRS qui bosse dessus. Et d'après lui, il est impossible de créer un lien social avec un robot froid. Hein, jamais, par exemple, on dit à son robot mixeur, s'il te plaît, mon amour, veux-tu bien hacher ces 3 courgettes? Enfin, une fois seulement, Benoît Poulvord a fait ça en revenant d'une soirée jupilaire et plat pays. Il a même entendu le mixeur lui répondre avec plaisir. On n'échange pas. Ce matin, je n'ai même pas dit bonjour à mon presse-légumes. Hein, et on se sent seul, anonyme, inerte au milieu d'une foule indifférente. Aussi seul que Roland Magdan au gala des Jeunes Espoirs du Rire. Le chercheur a donc créé Nina, un robot expressif qui cligne des yeux et fait passer des émotions à travers le regard. Hein, c'est troublant. Vous finissez par lui payer un verre en vous disant j'ai l'air de lui plaire, mais je peux pas l'inviter chez moi. J'ai rangé la spie dans le placard. C'est un collègue, elle va le prendre mal. Bref, à terme, on ne saura plus qui sera un robot, de qui sera un humain. Hein, Leïla vous dirait bonjour, Philippe Delerme. Il vous répondra non, moi c'est RF466, l'humanoïde de Delerme. Philippe est resté chez lui, pioncé. Venir à Inter, pour lui, c'était trop facile. Il garde ses forces pour la matinale de Rire et Chanson jeudi. Alors les robots sont là, ils nous observent, nous écoutent. Comme la poupée Kayla qui parle aux enfants. Elle est fabriquée en Chine, donc elle leur dit au travail, petit morveux, où j'appelle le chef d'atelier. Et elle est accusée par la CNIL de ne pas crypter les données. Hein, depuis un portable par Bluetooth, on peut entendre ce que les gosses se disent à 20 mètres de distance. Hein, des trucs comme, tu sais Théo, ma grand-mère, elle adore Daniel Morin. Ou moi, j'aime bien le président Macron parce qu'il est de notre génération. La poupée Kayla a même été interdite en Allemagne car considérée comme espionne. Hein, vous en filiez une à la petite fille de Merkel. La poupée enregistrait mamie en train de dire « Poutine, je vais le plier !» ou « Theresa May, mais je vais lui mettre la misère !» Ah, Merkel, c'est le Terminator déguisé en Mamie Nova. Hein. Elle est inflexible. Avec elle, on a même reculé sur le glyphosate. Hulot, en 3 rencontres, elle l'a composté et a taillé les restes sur ses plants de tomates. Bref, les robots sont là et moi-même, JKO223, je vais rejoindre mon maître Pasturo parce que là, je n'ai
Tanguy Pasturo.
La bande originale. Bravo, Tanguy.
Chronique futuriste.
Ah ouais, pas mal. Philippe Delerme, ça vous inspire quoi, les robots?
Écoutez, pas grand-chose. J'aimerais pas vous voir remplacé par un robot, Léla. Vraiment pas.
Décidément, on a beaucoup de questions à poser. 2018, c'est comment sur les chapeaux
revenons,
de roue.
Revenons à plus sérieux.
Non, revenons à cette relation bizarre. S'en fout du livre, là. Moi, je veux savoir ce qui se passe.
Et vous avez eu beau temps aux éditions Seuil Philippe Delerme. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a aussi, on peut faire des catégories. Il y a donc ces phrases ordinaires. Il y a aussi des situations particulières. On a parlé de l'homme et souvent de son envie de se faire mousser et de donner une face visible un peu positive. Et puis, il y a aussi le rapport à la culture. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que souvent, on est amené à croiser des gens qui nous parlent d'une exposition et qui nous disent à quel point elle est juste extraordinaire, juste sublime, il y a à dire. Hein. On se retrouve un peu cadenassé. Ouais, et on a forcément toujours la même saillie.
Et là, en fait, oui, je trouve qu'on on dit souvent ça finit quand. Et là, c'est et ça, c'est vraiment une phrase qui est quand même en général assez focus parce
ouais,
que elle peut être d'ailleurs bon un petit peu sincère dans un premier temps, mais en même temps un peu dilatoire déjà parce que de possibilités ou bien c'est reculé. Ah bah ça reste encore 3 mois, ça va, j'ai le temps. Ouais, ou bien si ça finit après-demain, ah bah là, j'ai une contrainte là, vraiment je peux pas. mais dans les deux cas, en fait, si on s'interroge un petit peu sur le nombre d'expositions qu'on est allé voir après avoir dit ça finit quand, en fait c'est assez restreint ce nombre là mais on peut pas dire, en plus le tort des gens qui vous proposent un sujet culturel comme ça, c'est de donner des précisions, mais attends, c'est direct de chez toi, tu peux y amener tes petits-enfants, il y a des ateliers, c'est génial, alors là bon, sous l'avalanche on est obligé de dire un truc quoi, pour pas dire mais j'en ai rien à foutre a priori je suis pas du tout attiré par le patron en question, donc j'irai sûrement pas, et bon ça serait dire à la personne t'as des goûts à la noix, et donc on dit ça finit quand simplement.
Ça finit quand, et je trouve que c'est une belle façon aussi pour s'en sortir, parce que finalement,
voilà,
on peut le prendre aussi comme ça, Philippe Delerme. Ça peut renseigner. Alors, je m'attendais aussi, quand on évoque la littérature, on est aussi souvent interrogé sur, et est-ce que tu as lu le dernier un tel, ou est-ce que tu as lu Au-dessus du volcan, par exemple. Et je trouve que là, vous m'avez étonné, Philippe Delerme, vous en faites une lecture positive.
Parce qu'avant, pas du tout, hein, vous voyez venir, mais...
Non, parce qu'on parle de perfidie, et on peut toujours essayer de remarquer à quel point les gens sont un peu limite, mais là, vous l'avez pris de façon très positive.
Oui, parce que c'est un désavantage du fait de vieillir un petit peu. C'est que quand on est plus jeune, on s'imagine que la culture, c'est une espèce de bloc. On se sent pas cultivé, en fait. Mais en fait, on se sent jamais cultivé. Même au bout de la vie, on se sent pas cultivé. Parce qu'on a plein de trous. Et en fait, on se rend compte, au fur et à mesure que les années passent, que non seulement c'est normal, mais que c'est souhaitable. Et c'est parce qu'on aime beaucoup certaines choses que certaines autres, on les connaît même pas. Tout à l'heure, on parlait d'un auteur que je connaissais pas, que je découvrais avec plaisir.
Mais Léon Blois. Ouais,
ça finit quand ?
C'est pas Victor Hugo,
mais
ça finit quand ? La fin de la bande originale avec Philippe Delerme, c'est à suivre après Alain Souchon sous les jupes des filles. On retrouvera notamment le rêve de Jean-Jack Lang.
Oh ouais.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elles, dans le suave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas, garde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu, blanc rage, vert de rouge et vert de rage, l'honneur des milices, tu seras un homme. Fiers sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elles, dans le grave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère.
rétine, mes pupilles. Les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Alain Souchon sous les jupes des filles. Hein. Et il a tellement aimé quand ça s'est arrêté, elle a sursauté de tristesse. Nous sommes jusqu'à midi et demi avec Philippe Delerme.
Philippe Delerme, pour vous avez eu beau temps la perfidie ordinaire des petites phrases. Mais on va d'abord se tourner vers notre cher
notre ami Jean-Jacques Lang. C'est l'heure du rêve de Jean-Jacques Lang.
Jean-Jacques.
Gigi. Salut les jeunes, les moins jeunes et les quasi-décédés. Aujourd'hui, 4 janvier, nous sommes encore loin de la fête de la musique, mais pourtant, il y a une méga teuf. C'est la journée mondiale du braille. Le braille est un système d'écriture tactile à l'usage des personnes aveugles et malvoyantes qui, pour celles-ci, a permis de grandes avancées, comme par exemple lire les livres passionnants, super intéressants et épatants de Philippe Delerme. Mais comme me le rappelait Leïla en préparant cette émission...
Oh,
autant les sourdingues, on s'en tape le coquillard, autant les aveugles, ça reste des auditeurs, faut en parler, merde. Alors, hier soir, couché dans mon lit, comme j'avais du mal à trouver le sommeil, fébrilement, je tripotais, je malaxais, je caressais ma grosse boîte de somnifères, quand soudain, du bout de mes phalanges, que j'ai hélas boudiné façon saucisse cocktail, et pour certaines amputées, je sentis néanmoins sur l'emballage le relief des caractères en braille qui donnent le nom du médicament, et moi, quand je tripote, je me laisse aller. Quand je me laisse aller, je pionce comme un routier slovène, et comme Slobodan, un ami transporteur, et comme le petit-fils de Philippe Delerme, je rêve. Dans mon rêve, je me retrouvais dans les rêves, on parle toujours à l'imparfait, on l'évoquait tout à l'heure, ce temps magnifique, je me retrouvais aéré dans les couloirs de la maison de la radio, qui, à la suite d'une panne géante d'électricité due à la chute d'un missile nord-coréen, était plongé dans le noir le plus absolu. Les bras en avant, le pas hésitant, j'avançais à tâtons, quand soudain je trébuchais sur une sorte de paquet, comme un corps tout mou. Et j'étais un corps tout mou, mais vraiment tout mou qui sentait fort. Celui de GNB, notre rédac-chef, enroulé dans des journaux et des cartons, car contraint par Nagui, comme vous le savez, à dormir sur son lieu de travail. Je l'enjambais, poursuivais mon chemin, toujours à l'imparfait, toujours à tâtons, dans des couloirs de plus en plus labyrinthiques, quand soudain, une voix retentit dans l'obscurité. « Qui va là ?»« C'est Jean-Jacques, maréchal Ganache. Comment sais-tu que je suis Ganache, espèce de bleu-bite, puisqu'on est dans le noir ?» Je vous ai reconnu à la voix, maréchal. Une voix martiale, une voix de mal, une voix qui fait mal. Ta gueule. Je sens que t'as le trouillomètre à zéro. T'as les grelots, une vraie flippette. Un gars qui en a dans le froc. C'est un gars qui n'a pas peur du noir. Et moi, le noir, ça ne m'a jamais fait peur. C'était au Kogon Brazza, en 1937. À la tête de mes tirailleurs sénégalais, j'avais hâte de mater la révolte des Baloubas, une tribu d'anthropophages, des cannibales. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles, oui. Il en faut pour que je m'emballe, c'est discuté.
Oui. Poursuivez.
Ah, c'est moi qui dis poursuivez.
Ah, pardon.
Poursuivez, maréchal. Ne me faites pas languir. Un soir, Coco, mon boy qui avant moi avait guidé Tintin au Congo, on en parlait tout à l'heure, accourt en hurlant avec la voix de Michel Leb. Buana ganache, y en a grand malheur. Libalouba, y en a vouloir attaquer nous pour nous manger. Ils vont nous manger, buana ganache. Bon, je change de page. Ni une ni deux.
C'est pas vrai.
Je tombe du hamac, saisis mon fusil à éléphant, et dans la nuit noire comme ébène, je fonce dézinguer ces mangeurs d'hommes. Mais soudain, le sol se dérobe, et je tombe au fond d'un trou où ma chute est amortie par une masse toute molle et poilue qui sentait fort. Je parie que c'était JNB. Presque. J'étais tombé dans un piège à gorille. Aussitôt réveillé, le primate, qui était Nyctalope, m'enlace de ses bras préhistoriques, tout en me reniflant le fion et en sifflotant du Rose Laurence. Ah, je devais lui plaire à cet abominable King Kong. Ah, ce fut la saga Africa. Ambiance de la brousse. Attention, les secousses garanties sans huile de palme. La douleur fut atroce. En dépit des soins intimes prodigués par notre médecin-major, légionnaire Joseph Mengele, je porte encore les séquelles de cette étreinte déchirante. J'en chiale encore aujourd'hui et ça me brûle. Dis-moi, Jean-Jacques, il n'y aurait pas du mitosil ? Heureusement, pour une fois, je n'en avais pas dans ma veste Kenzo à Colmao. Prédixant la recherche du longon apaisant, je m'éloignais toujours à tâtons quand je fus attiré par les échos d'un chant scout. Je m'approchais et sursautais car deux mains palpaient mon visage. « Mais que faites-vous » m'écriai-je. « Qui êtes-vous ? »
Coco, c'est moi, le père Albert. Je profite de cette panne pour initier mes jeunes en recherche au jeu de Colin Paillard.
Mais père Albert, une partie de Colin Maillard, ça se joue en plein jour. Seul un des joueurs, pour chercher les autres, l'aveuglette, les yeux bandés.
Oui, mais moi, je viens de te dire que je joue à Colin Paillard, pas Maillard. Et à Colin Paillard, c'est pas les yeux qui sont bandés. Allez, déshabille-toi, mets-toi à l'aise et viens t'éclater avec nous. Après, on ira dans ma camionnette bâchée cuir clouté noir, jouer à saute-mouton, au trot du lapin, à délider-le, à la main chaude, au père fouettard, à la première gorgée de bière, à chabite. Allez, viens, soyons foufou, comme disait notre ami Tom.
Malheureusement, au moment où le père Albert allait joindre le geste à la parole, je me suis réveillé à côté de Daniel Morin. À demain.
Voilà. Bravo, merci Gigi. La bande originale. Quel joli rêve.
Merci, merci à tous. C'est l'effort collectif de cette émission. Mais avant de se quitter, c'est le collectif qui compte. Avant de se quitter, Daniel, des excuses, j'espère.
Bien sûr, je suis désolé pour les fans de Philippe Delerme qui ont découvert ce matin la feignasse qu'il était quand leur auteur fétiche a déclaré « Deux pages, c'est mon format. » les gens de gauche. Désolé pour nos auditeurs racistes qui ont découvert, et comme Philippe Delerme, la sarrasine Leïla Kadour Boudadi a été prof de français. Purée, la France de 2018 ne me fait pas envie. Désolé, enfin, désolé pour moi qui en 80 minutes n'ai pas réussi à savoir quelle était la nature de la relation entre Philippe Delerme et Leïla Kadour Boudadi. Enfin merde, c'est la troisième femme de Nagui quand même. J'ai le droit de savoir.
Vous n'en saurez pas plus. Et vous avez eu beau temps, Philippe Delerme, la perfidie ordinaire des petites phrases aux éditions Seuil. Merci Philippe d'avoir été avec nous, c'était un plaisir.
Merci à vous, plaisir merci. Partagé.
Et demain on se retrouve, Daniel, toujours dans la bande originale.
Avec Pascal de Molon.
Et ouais.
Voilà, et c'est l'heure de retrouver notre ami Philippe Bertrand. À demain.